RFI, 8h30 à Paris, 6h30 en temps universel. Et le journal avec vous, Édouard Dupénoit, l'actualité africaine, une édition qui oscille entre politique, diplomatie et violence du percute au menton.
Oui, la diplomatie d'abord, le jeu d'équilibriste qu'Abdoulaye Batili tente de mener avec les pays de l'AES. L'envoyé spécial du président sénégalais était hier à Bamako. Diplomatie française aussi avec, en fin de compte, une inquiétude exprimée par Paris sur la disparition en Guinée de Fonik Emenge et Mamadou Biloba. La politique, la révision des listes électorales qui commence en Côte d'Ivoire et deux nouvelles coalitions d'opposition pour les législatives au Sénégal. Et les uppercuts, ceux de Francis Ganou, il va en donner ce soir, il va en recevoir aussi sans doute. Le prédateur retourne dans la cage.
Abdoulaye Batili en visite donc dans la capitale malienne.
Et c'est un diplomate madré qui porte la délicate mission de se rapprocher de trois pays en rupture de ban. L'envoyé spécial du Sénégal pour le Sahel poursuit ses rapprochements diplomatiques. Puisqu'il était déjà au Burkina Faso la semaine dernière, Ouaga, Bamako et Niamey qui ne dévient pas de leur ligne, renforcer leur alliance des États du Sahel et fermer à double tour la porte de la CDAO. Ce qu'Abdoulaye Batili semble avoir particulièrement bien compris, Serge Daniel.
Après avoir remis un message de son président Bassirou Diomaye Faye au chef de la junte malienne, l'envoyé spécial du Sénégal pour le Sahel a expliqué sa démarche. Dans un premier temps, son objectif est de resserrer les liens du Sénégal avec ses trois pays membres de l'Alliance des États du Sahel, Burkina Faso, Niger et Mali. Professeur Abdoulaye Batili.
Trois pays de cet espace régional ont décidé de constituer une organisation, l'AES. Le Sénégal considère que tout ce qui va dans le sens du raffermissement des relations entre 2, 3, 4 États, 5 États au-delà, c'est une chose positive. Et ce qu'on peut faire en plus et en mieux à 2, à 3, à 4, il faut le faire.
Ces trois pays ont claqué la porte de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et l'une des missions de l'envoyé spécial sénégalais est également de contribuer à les faire revenir au sein de l'organisation régionale.
Bien entendu, il y a des problèmes au sein de la CDAO en tant qu'organisation. Mais les peuples veulent continuer à vivre ensemble.
Ancien numéro 2 de la mission de l'ONU au Mali, il est un panafricaniste reconnu pour réussir sa mission. Il a quelques idées précises à sa stratégie, ne pas donner l'impression qu'on impose des décisions à ces trois pays.
Serge Daniel, le Sénégal proprement dit, où le paysage politique continue de se recomposer, à moins d'un mois ce matin des élections législatives anticipées. Dans l'opposition, on comptait déjà deux coalitions, l'une dirigée par Macky Sall, l'autre par l'ex-premier ministre Amadou Ba. En voici deux autres qui font toutes partie des listes déjà autorisées par le ministère de l'Intérieur. Sam Sakadou et Sénégal Kessé, Magali Lagrange fait les présentations.
Derrière un bureau et une rangée de micros, des leaders de la coalition Sam Sakadou ont pris la parole à tour de rôle. Parmi eux, la tête de liste, Barthélémy Diass, l'actuel maire de Dakar. On retrouve aussi Khalifa Sall, qui a fait plus de 2% à la présidentielle en mars, mais également d'autres candidats malheureux du scrutin présidentiel, comme Détié Fall ou Anta Babacar Ngom. Thierno Bokoum, porte-parole de la coalition.
Nous avons mis en place une coalition que nous appelons un bloc générationnel. Ce sont des jeunes leaders qui se sont regroupés pour tout simplement pouvoir conquérir pour les élections législatives. Donc nous travaillons aujourd'hui à constituer un contre-pouvoir. Nous comptons véritablement travailler à avoir une majorité à l'Assemblée nationale.
Dans certains départements, cette coalition a fait des alliances avec celle de Macky Sall ou d'Amadou Ba. L'ancien ministre et député sortant Thierno Alassane Sall a donc préféré partir de son côté avec la coalition Sénégal-Kessé qu'il a formée avec l'ancien premier ministre Abdoul Mbaye.
Nous avons monté une coalition avec l'idée d'avoir le maximum de députés possible pour peser à l'Assemblée nationale. Nous avons un programme qui mettra davantage l'action sur le contrôle de l'action gouvernementale et qui permettra, par exemple, d'interroger le gouvernement, de l'interpeller sur les questions majeures.
En face, le parti présidentiel, le PASTEF, qui n'avait qu'une vingtaine de sièges parlementaires, part seul dans l'espoir d'obtenir une majorité qualifiée à l'Assemblée nationale.
Magali Lagrange, la Côte d'Ivoire prépare aussi des élections échéances plus lointaines avec la présidentielle dans un an.
Et le début aujourd'hui d'une période cruciale, la révision des listes électorales, elle doit durer 3 semaines. Aujourd'hui, ces listes comptent 8 120 000 électeurs, étape importante donc, et qui suscite déjà des crispations, Binta Diagne, au sein de la classe politique.
Cette opération vise à enrôler le plus d'électeurs possible. La commission électorale indépendante a ouvert plus de sites d'enrôlement. On passe de 10 000 à 12 000 centres. Au-delà de la CEI, la classe politique se mobilise sur ce sujet. Le RHDP au pouvoir cible près de 3 millions de potentiels primo-votants. L'opposition estime entre 4 et 5 millions le nombre d'électeurs manquants. Pour simplifier les démarches administratives, le certificat de nationalité est désormais gratuit. Il est par ailleurs possible de s'inscrire avec un récépissé de carte d'identité. Malgré ces changements, cette procédure suscite des réticences de la part de l'opposition qui réclame l'allongement de la période d'enrôlement. En début de semaine, un groupement de 24 partis politiques de l'opposition a exigé des réformes afin que les compatriotes se réconcilient avec le vote pour que le résultat de l'élection soit représentatif, a souligné Tidiane Thiam, le leader du PDCI. Des critiques rejetées par le RHDP qui rappellent que les partis politiques reçoivent le fichier électoral et sont invités à présenter toute anomalie à la commission électorale, selon Kobenan Kwasi Adjoumani, le porte-parole du RHDP. Binta Diane Abidjan, RFI.
La Côte d'Ivoire ou la FECI ne réagit pas encore officiellement à l'annonce de la dissolution de toutes les organisations syndicales étudiantines. Des dissolutions qui suit deux faits divers sanglants, deux assassinats d'étudiants en août et en septembre. Des informations judiciaires sont ouvertes et 17 personnes ont été arrêtées, dont le leader de la FECI. Deux autres organisations, en revanche, déplorent cette dissolution. L'UNESI et Respect qui veulent saisir le Conseil constitutionnel. Dissoudre la FECI, par ailleurs, ce n'est pas juste mettre fin à un syndicat étudiant, c'est tenter de juguler une structure très puissante, souvent accusée de semer la terreur sur les campus, et qui a tenu une place importante dans la vie politique ivoirienne. Seulement, est-ce que c'est encore le cas en 2024? Nicolas Sûr posait hier la question au professeur Francis Akindes, sociologue enseignant à l'université Alassane Ouattara de Bouaké.
La FECI a vu sa légitimité un peu érodée pendant la crise, parce qu'elle était très très proche du pouvoir de Laurent Gbagbo à l'époque. Et avec, à la fin de la crise, la FECI n'a plus retrouvé la puissance qu'elle avait par le passé. Et du coup, elle se met dans une position de pouvoir user de sa force pour délivrer des services, soit politiques, pour des politiques qui le souhaiteraient, soit continuer à capter les ressources comme elle le fait sur les campus. Et il était temps maintenant que les pouvoirs publics s'intéressent à cela pour pacifier l'espace académique. Là, maintenant, toute la problématique, c'est comment sortir la violence de la poursuite de l'action syndicale, parce qu'on ne peut pas empêcher les étudiants de ne pas avoir un syndicat. Donc, c'est ce face à quoi l'État est, et je crois que l'opinion publique attend les décisions de l'État en la matière.
Notre entretien complet avec Francis Akindes est en ligne sur notre application RFI Pure Radio.
Plus de 3 mois après l'enlèvement de 2 militants guinéens, la France retrouve sa voie diplomatique.
Paris se dit très préoccupé par la disparition de Fonike Mengue et de Mamadou Biloba et demande que toute la lumière soit faite sur ces événements. Ces deux figures du FNDC ont été kidnappées au mois de juillet, de nuit à leur domicile. Certains de leurs ravisseurs portaient des tenues militaires. Personne n'a de leurs nouvelles depuis cette date. Et la France était de plus en plus critiquée pour son silence sur le sujet, Sidi Yansané.
La veille de cette déclaration du ministère français des Affaires étrangères, l'ambassade de France en Guinée avait réagi de manière plutôt officieuse en partageant sur ses réseaux sociaux un post de l'Union européenne qui demandait à l'État guinéen des éclaircissements sur la disparition de Fonike Mengue et Biloba 100 jours après leur enlèvement. Paris corrige donc le tir par la voix officielle du porte-parole de la diplomatie française, qui se dit très préoccupé par cette disparition. Christophe Lemoine.
C'est un sujet qui a été évoqué avec les autorités guinéennes et le message qui leur a été passé, c'est que toute la lumière doit être faite sur les circonstances de leur disparition et que des réponses soient apportées, notamment aux inquiétudes absolument légitimes des familles et des proches. Nous attendons d'avoir les résultats de l'enquête et nous attendons de voir comment on pourra ensuite avancer. Mais c'est une préoccupation que nous avons et c'est pas un sujet qui est ignoré dans les relations entre la France et la Guinée.
Avec les prises de position de l'ONU, des États-Unis, de la Grande-Bretagne notamment, qui avait réagi peu après l'enlèvement de Fonike et Bilo, la France, qui entretient pourtant une coopération sécuritaire avec la junte guinéenne, était régulièrement pointée du doigt pour son silence. Le mois dernier, un collectif d'ONG demandait au gouvernement français de condamner publiquement les violations des droits humains en Guinée.
Sidi Yansané.
Et puis les yeux rivés derrière le grillage, on termine ce journal entre le Cameroun et l'Arabie Saoudite. Not a lot of people burning up Nick Maynard's phone to try to get a matchup with Ngannou. Down goes the ream. Francis Ngannou has arrived.
That's what we were talking about, ladies and gentlemen. That's how scary Francis Ngannou is. I mean, that's like a scene in a movie.
L'accent anglais ne vous aura pas empêché de reconnaître le nom de Francis Ngannou. Ça se passe à Riyad ce soir. Combat contre Renan Ferreira avec, en termes d'enjeu, la ceinture poids lourd PFL. On parle MMA, bien sûr, ces arts martiaux mixtes où tous les coups ou presque sont permis. Francis Ngannou, le Camerounais que les commentateurs surnomment le Predator, 38 ans, parcours toujours ganté, puisqu'il avait tenté ces dernières années une incursion malheureuse, certes en boxe anglaise. Joël Wadem s'est rendu dans un club de pugilistes de Yaoundé, qui bien sûr ce soir seront devant la télé.
Nous sommes à Ebolova Boxing Club. Une vingtaine de jeunes pugilistes sont en séance d'entraînement. Tous pensent au combat que livrera Francis Ngannou ce samedi. Pour le coach Rim Seyi, le Predator est revenu au MMA pour prouver qu'il reste le maître dans la discipline.
On l'a invité, il fallait qu'il reparte en MMA, démontrer ce qu'il peut. Il va écraser son adversaire.
Tout en arborant ses gants de couleur rouge, Mayan estime que c'est l'appât du gain qui fait courir Ngannou entre le MMA et la boxe anglaise.
Un champion en MMA gagne 600 000 dollars. Un combattant de boxe anglaise au même niveau gagne une somme de 50 millions de dollars. Raison pour laquelle il a voulu se donner ce défi de compenser ces différences de masse salariale.
Pour Brandon, Ngannou qui affiche 17 victoires et 3 défaites en MMA voudrait graver son nom dans l'histoire de la boxe anglaise et dans celle des arts martiaux mixtes.
Ce n'est pas tout le monde qui peut quitter de la boxe en MMA, de MMA pour la boxe. Il va entrer dans l'histoire du sport.
Mayan considère que le combat de ce samedi ne marquera pas le retour définitif de Ngannou en MMA.
Je suis sûr qu'il va encore retourner en boxe anglaise. C'est un Camerounais qui a l'envie de gagner, de prouver.
Tous les boxeurs présents donnent Ngannou favori du combat de cette nuit. Joël Wadem, Yaoundé, RFI.
Un combat très tard ce soir, ce sera autour de 23h TU. Évidemment, on vous en reparle demain.
Merci Edouard Dupénoit.